Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 3, 5, 10 mètres ou plus, quelles distances doivent être respectées entre les habitations en France et les zones d'épandage de pesticides? Une consultation est lancée aujourd'hui. Les agriculteurs et les militants écologistes ont déjà leur avis, tout comme le gouvernement, vous l'entendrez dans un instant. Nous irons ensuite en Afghanistan où les négociations entre talibans et américains ont été annulées sur ordre de Donald Trump. Les talibans ont menacé hier Washington. Et puis, que va faire Boris Johnson à Dublin aujourd'hui? Négocier une sortie de l'Union européenne avec ou sans frontières irlandaises? Notre correspondante au Royaume-Uni fera le point pour nous sur les solutions britanniques en ce début de semaine. Et voici donc une nouvelle consultation des Français. Elle débute aujourd'hui et concerne l'épandage de pesticides. Faut-il respecter une distance de 5, 10, 100 mètres entre les habitations et les zones touchées par ces pesticides? Chacun peut donner son avis sur Internet. L'arbitrage officiel lui sera donné fin novembre, mais la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, avant même le début de la concertation, a déjà une idée très précise de ce que doivent être les distances entre les cultures et les habitations. Elisabeth Borne.
Les distances, elles sortent pas d'un chapeau. C'est celles qui ont été préconisées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est donc des avis scientifiques. Donc il y a deux chiffres qui ont été avancés par l'ANSES. 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses. C'est ce qui sera proposé dans les documents mis en consultation. Et on pourra les adapter localement dans le cadre de charges.
10 mètres ou 5 mètres, un arbitrage minimaliste selon les écologistes et les associations qui aimeraient une distance plus grande. Un arbitrage surtout inutile, disent de leur côté les agriculteurs. Voici le reportage de Victor Vasseur en Haute-Loire.
La première réaction de Daniel, c'est de lever les yeux au ciel.
C'est une grande bêtise.
Cette proposition, cet agriculteur de Haute-Loire et son ami ne veulent pas en entendre parler.
Mais à l'origine, il n'y avait que de la terre agricole, il n'y avait que des agriculteurs, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de lotissement, il n'y avait rien. Mais c'est pas nous qui allons les empoisonner. On leur demande rien, on ne leur a pas dit de venir.
Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui sont pointés du doigt, déplore Johan, 22 ans.
Ça va changer quoi, 5 à 10 mètres, un petit coup de vent et hop, ça va voler pareil. S'ils nous trouvent une solution qui marche, en face, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est pas forcément le cas.
Mais pour les associations de défense de l'environnement, séparer les maisons des champs de 5 à 10 mètres, ce n'est pas assez. Renaud est militant chez France Nature Environnement en Haute-Loire.
Ce qu'il faut savoir, c'est des produits qui sont très très volatiles et qui se déplacent très rapidement. Alors on a beau interdire le passage de pesticides en période de vent, mais on a tous vu des agriculteurs continuer à mettre des pesticides, même quand il y a du vent, donc ça reste assez dramatique.
Pour éviter d'enflammer le débat, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, propose du cas par cas. La mesure pourrait être adaptée en fonction de chaque commune.
C'était Victor Vasseur de France Bleu Saint-Étienne-Loire pour France Culture, Victor Vasseur. Au grand mot, y aura-t-il des grands remèdes? La ministre de la Santé doit présenter cet après-midi un plan d'action avec un budget dédié pour régler la crise dans les urgences qui dure depuis bientôt 6 mois. La primeur de ces annonces sera réservée à partir de 15h aux représentants des personnels et aux dirigeants hospitaliers qui sont reçus au ministère de la Santé. Mais déjà, le quotidien Les Échos croit savoir ce matin que l'enveloppe s'élèverait à 600 millions d'euros répartis sur 3 ans. Ce lundi, le président Emmanuel Macron reçoit, lui, à l'Élysée, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, en pleine consultation sur la réforme des retraites. La rencontre aura lieu à midi. Voilà ce qu'indique l'agenda du chef de l'État qui ne précise pas le thème du rendez-vous. La République En Marche revendique un succès. Le parti présidentiel a tenu ce week-end son campus des territoires à Bordeaux, une université d'été qui ne dit pas son nom. 3500 personnes environ y ont assisté, des militants, adhérents, des cadres du parti et des membres du gouvernement. Le Premier ministre est venu hier après-midi clore cet événement et Édouard Philippe en a profité pour faire taire une rumeur le concernant à quelques mois des élections municipales.
Il m'est arrivé récemment qu'on me dise « Édouard, tu devrais aller te présenter à tel endroit ». On me l'a dit « Benjamin, à Paris ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà un excellent candidat investi par La République En Marche à Paris. Il s'appelle Benjamin Griveaux. Il est là. C'est lui. Et une deuxième raison, c'est qu'on n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit où l'on est enraciné, à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, notez bien, si un jour je devais être candidat au municipal, je ne vois pas très bien où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge que nous retrouverons à 7h24 tout à l'heure pour le reportage de la rédaction tourné lors du campus du parti La République En Marche à Bordeaux ce week-end. Il est 6h35 et nous poursuivons ce journal sur France Culture avec l'actualité internationale et la fin annoncée des négociations de paix entre talibans et américains. La décision a été prise par Donald Trump ce week-end après une attaque à Kaboul ayant notamment tué un soldat américain. Le gouvernement afghan, qui était exclu des discussions de paix à Doha depuis le début, a rapidement exprimé son soulagement. Les talibans, eux, ont mis plusieurs heures avant de répondre et ils ont finalement menacé les États-Unis, Sonia Ghazali.
Cette décision portera préjudice aux États-Unis plus qu'à quiconque, ont réagi les talibans dans un communiqué. Nous poursuivrons le djihad et nous en sortirons vainqueurs, ont-ils écrit, ajoutant des centaines d'Afghans sont tués dans les frappes aériennes menées par les États-Unis. Réponse à la décision de Donald Trump de mettre fin aux négociations après l'attaque de jeudi dernier à Kaboul. Les talibans disent être persuadés que les États-Unis reviendront à la table des négociations. Selon certains observateurs, Donald Trump a cédé aux pressions internes. De hauts responsables américains ont récemment exprimé leur désaccord sur l'accord de principe tel qu'il était rédigé. Donald Trump a trouvé un prétexte pour remettre en question le texte de l'accord de principe et mettre ainsi plus de pression sur les talibans pour les forcer à faire plus de compromis. Plusieurs analystes doutent que Donald Trump ne change pas d'avis une nouvelle fois au regard des mois d'efforts et de discussions entrepris en vue d'un accord. D'ailleurs, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a déclaré que les États-Unis n'excluaient pas une reprise des négociations avec les talibans à condition que les insurgés changent d'attitude et respectent leurs engagements.
Sonia Ghazali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture ce matin. La Russie attend les résultats des élections locales qui s'y sont déroulées hier. Après les manifestations hebdomadaires de cet été à Moscou, la question est toujours de savoir combien de candidats pro-Vladimir Poutine ont été élus. La Russie où se rendent par ailleurs aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la ministre des Armées Florence Parly. Ils vont rencontrer leurs homologues et tenteront un rapprochement, une première depuis la guerre de Crimée en 2014. Les députés britanniques doivent décider aujourd'hui s'ils veulent ou non des élections anticipées, comme l'avait demandé le Premier ministre. Boris Johnson, lui, aujourd'hui, va se rendre à Dublin. Il doit rencontrer son homologue irlandais. Et la question du retour d'une éventuelle frontière physique divise toujours. Alors, que peut obtenir le Premier ministre britannique, Emmeline Vint ?
Officiellement, Dublin refuse de parler de rencontres bilatérales. Les négociations ne peuvent se tenir qu'entre Londres et Bruxelles. En revanche, Boris Johnson pourra faire valoir son point de vue, expliquer quel genre de relation il souhaite entre la Grande-Bretagne et sa voisine irlandaise. Ce week-end, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar n'espérait d'ailleurs rien de plus.
C'est la première fois qu'on se rencontre en tant que Premier ministre. C'est une occasion d'établir une relation personnelle, de parler de nos opinions respectives sur l'accord de retrait.
Ce dimanche, Leo Varadkar a aussi ouvert la porte à un aménagement du backstop que Boris Johnson voudrait supprimer. Les deux hommes pourraient évoquer la possibilité d'un filet de sécurité pour l'Irlande du Nord uniquement et non pour l'ensemble du Royaume-Uni. Mais Boris Johnson arrive à Dublin en position de faiblesse et ça, Leo Varadkar en a bien conscience, il l'a souligné auprès de la presse ce dimanche. Le Premier ministre britannique va surtout devoir convaincre son homologue qu'il peut lui faire confiance après avoir perdu sa majorité au Parlement.
C'était Emmeline Vint à Londres pour France Culture. Notons enfin cette possible démission. Le directeur général de Nissan, éclaboussé par une affaire de primes indûment perçues, compte quitter prochainement ses fonctions, selon plusieurs médias japonais ce matin. Le conseil d'administration du groupe Nissan doit examiner aujourd'hui les conclusions d'une enquête interne. De nouvelles pluies arrivent par le nord-ouest ce lundi en France, du nord de l'Aquitaine jusqu'au Hauts-de-France, en balayant la Bretagne et la Normandie. Ailleurs, après de belles éclaircies ce matin, les nuages seront bien présents dans l'après-midi. Côté température, comptez 13 degrés dans la matinée à Besançon, 14 à Lille, 15 degrés à Rennes et Paris, 16 à Bordeaux et Lyon, 23 degrés ce matin à Nice.